Je vais essayer de vous amener donc dans les milieux forestiers, qui ne sont pas les milieux les plus courants ici. Que dire de la forêt ? On peut tout d'abord réfléchir à cette citation de Guyot, qui est l'ancien directeur de l'école des eaux et forêts avant 14. Ce qu'il dit reste tout à fait valable aujourd'hui. La forêt, c'est tout d'abord un bel objet. Bel objet, c'est-à-dire bel objet de recherche, bien sûr. Construction sociale, car les forêts sont ménagées, aménagées, construites par les hommes, pour les hommes, et au service des hommes. Et ces forêts sont aussi de plus en plus aujourd'hui mises en scène. Ces forêts, ce sont aussi des sylvosystèmes. Lorsque l'on est géographe, on aborde les territoires sous la forme de systèmes, d'actions, interactions, rétroactions. Et la rétroaction nous invite à tendre la main aux historiens. Ces forêts, c'est également des sols et des mémoires de sols, car très souvent, ces forêts existent depuis quelques siècles et non pas depuis des temps immémoriaux, si bien qu'on a dans la mémoire des sols des différences de fertilité qui nous rappellent que ces forêts ont pu être cultivées à un moment ou à un autre. Ce sol, avec ce pin racinaire, c'est aussi un filtre, autrement dit un élément essentiel pour capter l'eau, bien entendu. La forêt, qui est donc un objet et un sylvosystème, est aussi une richesse, car elle fait vivre beaucoup de gens, la richesse étant, in fine, presque exclusivement, la coupe finale, ou les coupes finales de bois, mais aussi, éventuellement, les locations de chasse. Et enfin, la forêt est aujourd'hui un habitat, mais un habitat pour quantité d'espèces qui sont inféodées. Et des espèces qui sont cycliques, des espèces qui vivent en fonction des différents niveaux de la forêt et en fonction de l'âge de la forêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut, pour avoir une forêt en bonne santé, il faut avoir une forêt avec tous les âges, une société d'arbres où tous les arbres sont présents, y compris les arbres secs, dépérissants, morts sur pied, ceux qui offrent de la nécromasse, autrement dit, ceux qui permettent de protéger des espèces inféodées qui autrement disparaissent, en particulier tous ceux qui sont dans la logique du xylophage. Je pense en particulier chez moi en Lorraine au très célèbre gobe-mouche à collier, qui est en fait un tout petit oiseau dont on a beaucoup parlé chez les écolos. Cette forêt, bien sûr, elle répond à divers stades qui vont de la régénération, le gaulis, le perchi, pour aller jusque l'arbre mature, puis l'arbre sénescent, puis l'arbre sur le retour, puis l'arbre effondré. Voici, si vous voulez, la proposition de plan que je fais avec vous. Trois parties. Première partie, donc, une réalité difficile, en effet, à circonscrire. La forêt, c'est... Tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est que la forêt. Et dès qu'on rentre dans une définition, en particulier une définition IFN, eh bien, on comprend qu'on a là quelque chose de complexe. Une forêt, c'est, je pense, comme une cathédrale, une architecture compliquée, où tout le monde est solidaire de tout le monde. Enlever un pilier d'une cathédrale, elle s'effondre, eh bien là, on est dans la même logique. Une forêt, c'est un ensemble d'arbres, c'est une lisière, c'est aussi, je pense, la prise en compte de toutes les externalités comptables qui entrent dans la logique forestière. Et si beaucoup de pays aujourd'hui voient leurs forêts régresser, eh bien ils voient également leur écosystème régresser. Les historiens modernistes savent très bien que la crise politique de 89 a été précédée de quantités d'alertes de crises hydrologiques, de crises climatiques, de déluges, etc., de toutes sortes, qui ponctuent notre histoire des sols entre 1750 et 1850, les grandes inondations de 1850 étant encore dans nos mémoires. Donc il faut associer à ce système forestier, comme à d'autres systèmes, à l'hydrosystème, la notion d'externalité. Combien ça coûte, combien ça rapporte, et pas seulement en monnaie sonnante et trébuchante. Les critères IFN, donc, qui sera le premier point de ma première partie, inventaire forestier national, il faut bien essayer d'avoir une stratégie forestière, et pour avoir une stratégie, il faut pouvoir faire des diagnostics, des inventaires, des comptabilités. Elles servent aussi, ou elles ont en arrière-plan, bien entendu, le captage de CO2, qui est aujourd'hui une prérogative importante en termes de gestion forestière. Mais il faut aussi savoir et rappeler que le bois a été très longtemps un outil stratégique, hein, et que si les rois, si Louis XIV fait avec Colbert la Grande Ordonnance, eh bien c'est par souci stratégique, j'en redirai quelques mots. Aujourd'hui en France, donc, on a une définition de la forêt qui est relativement extensive. Et on a une forêt à deux vitesses. On peut parler de forêt quand on a plus de 4 hectares de forêt et 25 mètres de haut de houppier, et une projection zénitale de plus de 10%. Vous voyez, on entre tout de suite dans les problèmes techniques, je ne développe pas. On peut aussi avoir une forêt fermée quand on a au moins 40% du sol qui est couvert, ou une forêt ouverte. Car pour moi qui suis vosgien, une forêt, eh bien c'est ça, hein, c'est le défilé de Stretture, c'est les épicéas, les arbres plus exceptionnels, hein, du défilé de Stretture au-dessus du lac de Gérardmer. Mais si vous êtes montpelliérain, eh bien la garrigue de Montpellier, c'est aussi une forêt. Mais elle correspond à cette deuxième définition très extensive que je viens d'évoquer avec vous. Et puis il faut savoir que quantité de pays ont des définitions très extensives de leur forêt et qu'ils baissent la norme forestière pour garder une certaine statistique forestière. Si la forêt baisse, eh bien on peut élargir, si vous voulez. De même qu'on va remonter, si vous voulez, la moyenne d'une classe pour avoir une note qui reste autour de 10. Donc il faut être très prudent. Et puis il faut savoir que, eh bien, on n'a pas fait l'unité européenne forestière. La Belgique ayant 3 législations forestières à elle toute seule, par exemple. Pour tout ce qui concerne donc ces aspects techniques, www.ifn.fr, vous aurez tous les renseignements sur cela. La forêt se décline en 4 catégories. Les bosquets, jusqu'à 1,5 hectare. Les boqueteaux, 1,5 hectare, 4 hectares. Et ça, c'est essentiel en logistique de cynégétique de chasse, en termes d'écologie, en termes de corridors, etc. On a également les bois qui font plus de 4 hectares et qui, la plus belle référence forestière, bien entendu, c'est le massif, qui, à mon avis, est le plus bel objet géographique. J'en reparlerai quelque part. On ajoute maintenant à cela les peupleraies qui ont longtemps été exclues, récoltées à 25 ans. Et tout ça, ça fait grosso modo 15,5 millions d'hectares en France. On a été jusqu'à 8,5 millions d'hectares au plus bas, hein, de la couverture forestière. Et si on regarde la statistique agreste qui est un peu différente, on en est à 16,6 millions d'hectares, hein, en incluant les haies, les bois épars, les ripisylves, autrement dit tout ce qui appartient à cette riche, à cette conservation de la biodiversité. Alors, comment sont identifiées nos forêts? Elles sont identifiées par l'IFN à partir, disons, de à peu près 10 000 placettes, hein, qui permettent en particulier de suivre la production forestière, mais de suivre aussi l'état de santé. Or, vous savez, il y a 25 ans, on a eu de grandes inquiétudes, entre autres, sur les pluies acides. C'est l'époque où on a mis ces placettes. Alors, ces forêts, ces 15 ou 16 millions et demi d'hectares, capitalisent actuellement à peu près 2,4 milliards de mètres cubes de bois, dont 60% est de bonne qualité. Bonne qualité, ça veut dire bois de tranchage, bois de déroulage, bois de sillage, de charpente, de menuiserie. Ce qui veut dire qu'il reste de la marge pour avoir de la nécromasse, pour avoir d'autres types de bois qui sont supports à d'autres logiques qu'une seule logique purement comptable. Ce qui, au final, fait à peu près 100 millions de mètres cubes, donc d'accroissement annuel. On peut imaginer qu'on a 100 millions de mètres cubes, ça veut dire qu'on a à peu près par français 1 mètre cube et demi d'accroissement de bois par an à notre disposition. Nous en récoltons beaucoup moins, même si on tient compte des chablis habituels. Aujourd'hui, on récolte environ 60 millions de mètres cubes par an. Ce qui veut dire que nos bois capitalisent, augmentent en volume constamment. Et qu'on est très loin des enquêtes BVA qui ont été faites il y a 10 ou 15 ans, où les Français craignaient de voir leur forêt reculer tant en surface qu'en volume. On n'est pas du tout dans cette situation-là. On a à peu près 24 millions de mètres cubes de bois d'œuvre, 11 millions de mètres cubes de bois rond, 20 millions de mètres cubes de bois de feu. Ces trois statistiques, qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de bois d'œuvre, or on utilise de moins en moins ce bois d'œuvre parce que les gens ne veulent plus d'avoir de beaux meubles en bois massif, etc., ou parce que c'est trop cher. Pas assez de bois rond, bois de trituration, bois qui s'inscrit dans une logique capitalistique qui est celle de la grande industrie papetière et de tous ses dérivés, et puis du bois de feu qui revient en force avec en particulier toute une série donc de défiscalisations. Alors promenons-nous un peu dans ces bois. Voilà ici un exemple de sur-réserve. J'ai pris des exemples vosgiens, peu importe, ça vous fait un peu d'exotisme depuis ici. Des arbres donc plus vieux que l'âge de la Révolution. On coupe un sapin ou un épicéa à 120 ans. Il est important d'en conserver de ces sur-réserves. Et puis, ce que les historiens ou géographes ont beaucoup étudié, c'est bien entendu les paysages anciens de ces forêts, et en particulier les taillis souffutés et les taillis qui sont récépés tous les 10, 15, au mieux 25 ans. Alors, on a quantité de types de forêts, y compris des forêts de protection, ça veut dire des forêts qui servent essentiellement à tamponner les forces du vent, de la neige, des intempéries, etc. Les forêts ici qui sont sur les hauts des versants. Donc, vous l'avez compris, cette production capitalise, cette production, c'est un outil stratégique, c'est un outil capitalistique, mais c'est aussi un objet de réflexion sur la qualité de nos territoires et de nos écosystèmes, voire de nos sociosystèmes. Aujourd'hui, on peut déplorer quand même une diminution de la diversité forestière, puisqu'on a quelques grandes essences qui sont surreprésentées. Le chêne, qui a été privilégié dans tous les aménagements du 19e, le hêtre, qui était également très privilégié, le châtaignier, le frêne, dans une moindre mesure, le sapin, l'épicéa, le pin sylvestre, et puis maintenant aussi le Douglas, donc qui entre dans cette série donc des arbres les plus privilégiés. Ce sylvosystème, il est très anthropisé, il a été construit par l'homme, pour l'homme, et il est le fruit du pouvoir régalien. La forêt, c'est un des endroits où l'État a été le plus présent. La présence du régalia, elle existe depuis grosso modo le XIIIe, XIVe siècle, et elle n'est encore pas sortie, cette puissance du régalia, puisque la seule collectivité régionale qui aujourd'hui s'occupe des forêts domaniales, c'est la Corse. C'est le seul endroit où, si vous voulez, où l'État a véritablement sort actuellement donc de cette emprise régalienne très forte. C'est le seul territoire. Or, ce pouvoir régalien cohabite probablement assez mal avec la logique de développement local inaugurée depuis 1982 par les lois de décentralisation, et encore plus mal probablement avec les logiques de mondialisation qui sont celles d'une économie ouverte. Pour faire un arbre, mon Dieu, que c'est long, pour vendre un arbre, mon Dieu, que c'est court. Quand la tempête est intervenue chez nous en 99, vous savez que la France de l'Est a été particulièrement touchée, les Chinois sont arrivés, et sont venus acheter des coupes. C'était quasiment la première fois qu'on les voyait venir acheter des coupes, du moins avec de très très gros volumes. Donc on est depuis moins de 20 ans dans une logique où le temps long, temps rond de la construction forestière est complètement en distorsion avec le temps économique. Et puis derrière tout ça, il y a aussi les révolutions génétiques qui nous permettraient de faire des arbres en tube, etc. etc. Alors pour se rassurer de tout cela, je crois qu'il faut tout d'abord être patient, être modeste. Le forestier doit être patient, doit être modeste. C'est à peu près le seul corps de métier où on ne voit pas le résultat de son travail, mais 6 générations après. Il peut s'appuyer, bien entendu, sur les cartographies des stations, ce qui lui permet donc de se rassurer. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 4 facteurs clés qui définissent la forêt. La structure, l'architecture. Il faut des architectures résilientes pour se défendre, en particulier contre les coups de vent, contre les tempêtes, contre les chablis exceptionnels qui sont de plus en plus nombreux. La composition de ces forêts, il faut qu'elles soient biodiversifiées en âge et en essence. Ensuite, il faut aussi accepter les perturbations. Nous sommes dans des sociétés où nous refusons l'échec, où nous voudrions faire des guerres sans avoir de morts, etc. En forêt, il faut que nous acceptions les ruptures. les ruptures cycliques qui s'inscrivent dans la vie de la forêt et qui sont des ruptures normales. Il faut simplement que l'homme essaye de les freiner par des positions prudentes. Et puis enfin, dernier paramètre, je crois que la forêt aujourd'hui entre pleinement dans les logiques de plan paysage. C'est un objet de mise en scène que la forêt, et c'est également important donc de le rappeler. Les forestiers aujourd'hui font tous leurs aménagements forestiers en mettant des cartes d'exposition à la vue pour que la forêt soit aussi un objet esthétique, un objet agréable à vivre, un objet qui est sollicité par des urbains qui sont de moins en moins connaisseurs de ces forêts. Avec des communautés de communes, avec des pays qui valorisent leur politique paysagère, la forêt joue un rôle ici important. Troisième et dernière idée de cette première partie, je crois que c'est aussi la forêt, c'est un lieu de vieille connivence. C'est le géographe Gabriel Sauter qui avait lancé ce mot « connivence ». C'est un mot que j'aime bien. En termes de recherche, je crois que la connivence avec son sujet, c'est quelque chose d'important. Et ces connivences, on peut s'interroger pour savoir si elles ne sont pas en train de se rompre avec les urbains, les rurbains ou les néo-ruraux, la mondialisation, la génétique, enfin tout ça. La forêt a longtemps été aménagée, et le mot est resté jusqu'à nous, ça veut dire qu'elle a été construite, établie en fonction des besoins des ménages, ça, selon le vieux mot médiéval, en fonction des ménages, mais aussi elle a été aménagée pour être ménagée. Ça veut dire pour perdurer, pour montrer que nous ne sommes que des usufruitiers dans une chaîne du temps où nous devons transmettre. Alors en termes de forêt, les Français transmettent bien puisque nos forêts sont maintenant très, très importantes en termes de surface. On peut s'interroger sur ce qui se fait ailleurs. Et ces forêts, elles ont eu trois stades, trois époques. J'aurais pu faire une conférence rien que là-dessus, je n'en dis que quelques lignes. Elles ont d'abord été nourricières, si bien que les Allemands utilisaient un terme, ils ne disaient pas forêt, ils disaient forêt nourricière, Nährwald, forêt qui nourrit. Parce que très longtemps, la première fonction, voire la fonction exclusive, a été dans l'effet de nourrir. Et puis ensuite, eh bien, ces forêts ont été mises en ordonnance, en ordre. Et voilà donc l'ordonnance, la grande ordonnance de 1669, celle de Colbert qui a, vous le savez, fait ses premières armes justement comme gestionnaire forestier chez les Mazarins, si mes souvenirs sont bons, et qui met en place cette ordonnance avec le mot « ordre » dans « ordonnance », ce qui veut dire que l'on va faire passer la France ou Taillis ou Futé à la cartographie des massifs de façon systématique. Au XVIIe en France, surtout après l'arrivée de Léopold, autrement dit après 1698 chez nous en Lorraine avec Durtar, ce qui a un avantage, c'est que le retard justement de cette mise en ordonnance va permettre de cartographier les forêts en même temps qu'on les met en ordre, qu'on les ordonne, ce qui n'est pas le cas ailleurs parce que la forêt est abornée, cartographiée avant en général. Troisième étape donc de cette puissance régalienne, la conversion et le passage donc au code forestier de 1827, code forestier qui est l'héritier de toute la science sylvicole des Lumières et qui est donc qui arrive tardivement parce que la longue période donc de la Révolution et de l'Empire n'a fait que des projets mais n'a pas concrétisé. Deuxième partie, cette forêt placée entre nature et société ou en nature et en société, elle est coincée entre le développement local qui aujourd'hui est fort, inventif dans beaucoup de secteurs, mais pas nécessairement assez, à mon avis, dans le secteur justement forestier, et la mondialisation. Elle est en amont de la filière bois et elle s'affiche multifonctionnelle. Alors, la forêt, tout d'abord, dépend pour l'essentiel quand même de ce que veut la filière bois. Il n'y a pas d'avenir de la forêt sans filière bois, sauf pour les forêts qui sont des zones d'expérimentation, les forêts qui sont laissées à elles-mêmes, les quelques forêts qui sont laissées à elles-mêmes et qui ont leur cycle sylvicole complet parce qu'elles souhaitent, on souhaite les laisser ainsi. Ou encore les forêts abandonnées, les forêts en déshérence, si vous avez hérité de votre arrière-grand-père vosgien, un agi qui fait 30 heures, que vous ne savez même plus localiser nécessairement, vous avez une forêt. Hein. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'essentiel de la forêt sert quand même à produire. À produire, en particulier pour investir, créer de la route, drainer, régénérer, faire les éclaircies. Vous n'avez pas de forêt si vous n'éclaircissez pas vos forêts, etc. Et cette forêt aujourd'hui, eh bien, elle est surtout au service de la production de fibres. Mais elle est aussi dans le passage à une économie capitalistique, une économie donc qui investit beaucoup de matériel par tête de travailleur. Cette forêt, elle est coincée entre des envies de biodiversité, des envies de qualité et des réalités concrètes de rendement qui sont souvent bien différentes. Aujourd'hui, il faut le savoir, notre outil de sillage, de débardage et de sillage qui est donc juste à l'amont de la forêt est un outil capitalistique très sophistiqué. On le voit ici, voilà une série des Vosges au XVIIIe siècle avec sa roue à eau comme on pouvait en voir un peu partout, roue en dessus, roue en dessous. Ce type de scierie traitait environ 200 arbres par an. Voilà les scieries modernes qu'on peut avoir, qui sont donc des outils capitalistiques. J'en connais un gendarme qui a investi 3 millions d'euros pour 10 employés il y a peu de temps. Donc il n'a pas le droit de se tromper. Hein. Et scier dans de bonnes conditions, c'est avoir des arbres qui soient le plus possible calibrés et relativement moyens. Ce qui veut dire que la logique du sillage va à l'inverse de la logique de la biodiversité qui invite à avoir des gros arbres, des arbres plus vieux que la moyenne, etc. C'est une industrie capitalistique qui est aussi une industrie très souvent inscrite dans le CAC 40 ou dans d'autres indices Nikkei et autres. Eh bien, cette industrie, elle pèse bien entendu sur la sylviculture, elle pèse sur les prix hein, des bois. Et des bois qui, comme le lait, ne rémunèrent plus aujourd'hui hein, certains métiers de la sylviculture. La situation, par exemple, dans la France de l'Est du hêtre actuellement est désespérante. Les prix du hêtre se sont effondrés. Et puis, également, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de concurrence entre la matière bois, en particulier bois d'œuvre, et d'autres produits. On ne fait plus de charpente traditionnelle, on fait de la fermette, ça veut dire qu'on utilise du lamelé collé pour faire de la charpente. On met des petits bouts emboutis les uns contre les autres, on ne met plus hein, des pannes, on ne met plus des... Voilà. Donc il y a toute une série de produits qui existaient encore il y a 20 ou 30 ans et qui sont aujourd'hui en train de disparaître et qui cassent des solidarités rurales, qui cassent de l'emploi. Vous avez une petite région justement des Vosges qui s'appelle la Vosges, qui n'a plus une usine, enfin, qui n'a plus une scierie, qui n'a plus d'usine de bois. Alors que la région est couverte de bois. Donc vous voyez, on est ici dans plein de contradictions. Le Grenelle de l'environnement nourrit aussi ces contradictions, puisqu'on souhaite aujourd'hui revenir à des produits de proximité, et ces produits de proximité vont à l'inverse, bien entendu, d'une entreprise capitalistique qui, elle, veut faire du volume. Quand une région, par exemple, veut soutenir la création d'une usine de déchiquetage, etc., eh bien, le rayon d'action pour être rentable, c'est 150 km. C'est pas faire quelque chose qui soit autour de 20 km. On a comme ceci, si vous voulez, une distorsion entre écologie et économie, et cette distorsion, eh bien, s'accélère aujourd'hui. Si on veut avoir des forêts qui soient rentables, il faut avoir des forêts qui soient les plus homogènes possibles, ce sont les plus fragiles. Et puis, on a du mal à suivre une demande qui évolue très vite. Je dirais que les besoins industriels ne vont pas dans le sens hein, de forêts équilibrées, de forêts en bonne santé, de forêts à transmettre en termes de legs, en termes de patrimoine. Parce que la forêt, c'est aussi du patrimoine. Et en termes de prudence et de multifonctionnalité. Ce qui veut dire que tous nos textes de loi sur la forêt eh bien, sont très souvent à l'inverse de la réalité. Qu'on soit dans le Grenelle ou qu'on soit dans la LOF, la loi d'orientation forestière de 2001, on a un hiatus important entre la réalité et le terrain. L'affichage multifonctionnel et ses limites. Eh bien, les lois d'orientation forestière vont toutes dans le sens de protéger la biodiversité, vont toutes dans le sens de faire des forêts qui soient des architectures complexes, etc. Mais la réalité ne va pas nécessairement dans ce sens, ce qui veut dire que nos forêts ne sont pas à l'abri eh bien, des grands coups de vent exceptionnels. Le coup de vent, Lothar et Martin ont montré les désastres que cela pouvait se faire, puisque je crois que ça doit être 7 ou 8 années de récolte qui sont tombées par terre en l'espace d'une nuit, ce jour-là. Qu'en est-il aujourd'hui de la forêt ? L'essentiel de notre forêt est exploité, certes. Une partie non négligeable est tout de même abandonnée, en déshérence, dans une fourchette de 5 à 15%. Et puis, on a quelques forêts qui sont patrimoniales, qui sont périurbaines, qui sont récréatives et qui jouent un rôle évidemment très important autour de toutes les villes. Et puis enfin, on a aussi quelques forêts qui sont sacrées, qui sont patrimoine, qui sont images, voire qui sont artialisées, même si parfois le feu est passé après l'artialisation. Je pense entre autres à la Sainte-Baume, dont on a beaucoup parlé il y a une quinzaine d'années. L'affichage multifonctionnel se traduit, je dirais, par des coûts visibles. Des coûts visibles qui sont bien mesurés quand les forêts sont domaniales, communales, ou encore quand elles sont soumises à un plan simple de gestion, c'est-à-dire dans la grande propriété privée. Ce coût, c'est l'entretien, c'est l'aménagement, la construction de chemins, le débardage, etc., etc. Mais à cela, il faut ajouter les externalités. Une bonne forêt, c'est une forêt qui permet d'améliorer le cycle de l'eau, qui permet d'améliorer le cycle de l'air. La publicité vous y invite de temps en temps. Quand vous entendez, par exemple, la pub sur les eaux de Wattwiller, par exemple, c'est bien la forêt qui est considérée comme le filtre de la qualité de l'eau. Vittel, avec le groupe Nestlé, a eu une très grosse inquiétude à la suite, vous le savez, de la pollution des sources Vergès dans le Gard. Et à Vittel, eh bien, la politique de captage des eaux a été draconienne. C'est-à-dire qu'autant que faire se peut, on a pratiqué une agriculture très prudente et on a maintenu tout ce qui existait comme arboré, ripisylve, petits massifs, bosquets, etc. On a tout maintenu pour conserver la qualité de l'eau. Mais ailleurs, eh bien, ces calculs d'externalité sont quand même, en général, assez peu utilisés. Dernière idée de cette deuxième partie, à quelle échelle faut-il travailler ? Bien, je crois que l'échelle du massif est cette bonne échelle. Le massif, c'est quelque chose d'important. C'est grosso modo 10, 15, 20 000 hectares. Ça veut dire que c'est un lieu où on peut faire une véritable politique globale et écosystémique d'aménagement. C'est l'échelle que retenait Colbert, c'est l'échelle que retenait Napoléon III, hein, quand de façon autoritaire, il menait des politiques forestières. C'est l'échelle également autoritaire que prennent les gens qui font de la RTM à partir de 1850. Bon, ils ne prennent pas le massif, ils prennent le bassin versant, mais c'est les mêmes échelles. C'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont grands, complémentaires, et on peut s'interroger sur les retrouvailles avec les grands animaux ou les animaux qui sont bio-indicateurs d'un territoire. Hein, à quelle échelle faut-il réfléchir ? À l'échelle de la ZICO, la zone d'importance pour la conservation des oiseaux, à l'échelle du mouvement de l'ours ou du loup. Alors, c'est difficile, c'est conflictuel, c'est compliqué, hein, mais je crois que celle du massif, 15-20 000 hectares, est une bonne échelle, une échelle pertinente qui permet d'associer, de négocier sur un territoire. Car la forêt est aussi réclamée par les gens qui veulent avoir des comptes sur ce qu'on fait, hein, en termes de forêt. Et en particulier, aujourd'hui, depuis la loi forestière de 2001, eh bien, on met en place progressivement des chartes forestières qui sont un peu le pendant de ce que pourrait être le pays ou certaines grosses grosses communautés de communes, hein, sachant que tous ces territoires peuvent évidemment se superposer plus ou moins bien. Hein. Ce sont des territoires, en particulier ceux des chartes forestières de territoire, des territoires de projet. Je vous donne un exemple. Aux portes de Nancy, vous avez le grand massif de haies qui fait 15 000 hectares. Quels sont les projets de la charte forestière ? Bien, ils sont grosso modo de deux. Premièrement, il faut conserver ce massif parce que c'est un très bel écrin pour la ville. Et puis, c'est un lieu de patrimoine, c'est un lieu évidemment de récréation. Et deuxième chose, il faut y réaliser des coupes pour faire du bois de feu. Et ce bois de feu, il est brûlé donc dans les chaufferies, en particulier des grands ensembles de l'agglomération. Donc voilà, si vous voulez, un double projet autour d'une charte forestière. Et puis une autre entrée pour voir la forêt, c'est l'entrée paysage. On peut aussi identifier le territoire par certaines espèces animales, végétales, ou tout simplement par le paysage, d'où les très nombreuses cartes d'exposition au regard que font aujourd'hui les forestiers pour commencer à discuter avec le public. La science forestière est longtemps restée une science fermée, une science qui était technicienne et qui négociait pas avec les autres. Aujourd'hui, il y a obligation à négocier avec les autres, c'est-à-dire à aller vers un discours commun, partager le territoire. Je crois que si j'ai un message à donner pour les thésards, je crois que la géographie, c'est ça, c'est partager le territoire, comprendre, prendre ensemble le territoire. Dernière partie, forêt entre nature et société, quel avenir pour la forêt? Nos forêts sont-elles en bonne santé? Peut-on réinventer autre chose que des forêts inscrites dans des temps longs, lents, ronds, cycliques, autrement dit, les temps que nous, ruralistes, nous aimons? Même si, bien entendu, il y a eu aussi des épidémies, des crises, des ruptures. Première question, nos forêts sont-elles en bonne santé? Nos forêts sont en assez bonne santé, mais elles sont comme notre société, elles vieillissent. Et on peut quand même avoir quelques inquiétudes là-dessus. Et elles sont peut-être aujourd'hui parfois aussi un peu envahissantes. D'où les politiques paysagères, en particulier en moyenne montagne, qui invitent à réouvrir les vallées un peu partout, là où les densités sont devenues trop faibles. La surveillance sanitaire des forêts ne doit pas être abandonnée. La biodiversité reste la meilleure façon de soigner les forêts. Et j'ai dit que la filière bois n'invitait pas à cette biodiversité. C'est une première inquiétude. Inquiétude complémentaire, je dirais qu'aujourd'hui les autochtones, autrement dit les essences autochtones, sont aussi menacées ou rencontrées par les exotiques ou par les adaptés. Ce qui agite parfois les sociétés d'hommes peut agiter les sociétés d'arbres. Je crois qu'il faut de la diversité, mais il faut aussi faire attention aux plantes invasives qui sont en forêt une calamité aujourd'hui. Et puis enfin, je crois que nos forêts ne contiennent pas assez d'arbres surnuméraires, en surréserve. Et enfin, dernière inquiétude, je crois que les travaux de RTM, les travaux de restauration de terrains de montagne, en particulier dans les Alpes et dans les Pyrénées, eh bien aujourd'hui ne sont plus assez réactivés. Ce qui veut dire que les travaux qui ont été faits entre 1860 et 1940, à une époque où la ruralité était encore abondante en termes de population, eh bien, ces travaux ne sont plus entretenus ou ne sont plus recyclés. Donc ce sont tout de même quelques inquiétudes qu'il faut avoir. Globalement, quand même, nos forêts sont en bonne santé. Deuxième question, comment faire cohabiter plusieurs modèles forestiers? Faut-il le faire? Est-ce pertinent? Comment? La réponse est oui, il faut faire cohabiter en effet plusieurs modèles forestiers pour répondre à la multifonctionnalité. La forêt, bien entendu, reste du capital, reste de la richesse, reste de la filière bois, et elle doit être entretenue. Mais il existe tout d'abord des forêts qui peuvent être en friche et qui sont des habitats pour quantité d'espèces et qui sont aussi en liaison avec d'autres milieux. Ici, vous avez un milieu tourbeux en liaison avec une lisière forestière. Bien ça, ce sont des éléments qui sont riches. Il faut aussi des forêts de protection, en particulier pour protéger nos skieurs, pour protéger nos montagnes. Il faut bien entendu des forêts de production et il faut également des forêts qui sont des forêts de récréation, des forêts de poumons verts. L'Île de France a fait un très gros effort à ce sujet. On est passé grosso modo de 50 à 80 000 hectares de surface forestière en Île-de-France. Donc il faut bien sûr continuer dans ce sens-là, y compris en préservant des îlots forestiers dans la ville au nom de la connexité écologique. Il faut bien entendu continuer à préserver et à construire, à entretenir les forêts de protection dunaires également. Et aujourd'hui, eh bien, les parcs sont à mon avis un des acteurs les plus pertinents avec les régions pour participer à cette politique. Parmi les forêts productives, on peut s'interroger sur, un peu comme on l'a fait pour les modèles agricoles, on peut s'interroger sur les modèles à suivre. Quelle place laisser aux forêts très productivistes dans nos territoires? Ce sont de vraies questions. Je n'ai fait, bien entendu, que balayer cela. Et dernière question, qu'en est-il de nos forêts par rapport au changement climatique? Vous avez tous lu Paul Arnoux et Laurent Simon, le dernier bouquin, où ils montrent justement ce glissement actuel. Un degré de différence de température amène une translation d'environ 100 à 150 km de notre couverture biogéographique, ou encore un glissement en altitude d'environ 100 à 150 mètres également. Eh bien, si la température augmente de 2 degrés, ce qui est fort plausible au cours du siècle, eh bien, les épicéas disparaîtront des sommets des Vosges. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Donc, on peut s'interroger, on peut d'autant plus s'interroger qu'il y a actuellement quand même une relative opacité sur les informations à propos justement de ces changements climatiques. Un exemple très, très basique, très moyen, la petite ville de Neufchâteau qui est dans l'ouest de la Lorraine. Entre 68 et 78, la moyenne annuelle était de 8,98 degrés, disons 9 degrés. Et entre 1999 et 2007, la moyenne était de 10,7 degrés. Donc on peut s'interroger sur ces changements climatiques. Là encore, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a océanisation de nos climats en parallèle. Mais on peut s'interroger sur la place des différentes essences et l'invasion donc, ou la disparition des essences. En conclusion, donc, j'ai essayé de brasser extrêmement large parce que je savais que le public était très varié. Je dirais que la forêt, ça reste un très bel objet de recherche, ça c'est sûr. Un objet entre nature et société, donc où les sciences dures et les sciences molles peuvent justement se rencontrer, où les historiens, les géographes, les sociologues, mais aussi les pédologues, voire plein d'autres disciplines se tendent la main, et je crois que c'est très agréable de travailler comme ça. En particulier pour l'histoire, c'est l'idée du cycle, de la rupture, des temps bifurqués, des rétroactions, qui me semble quelque chose d'intéressant. Et puis, cette forêt, c'est aussi un territoire à aménager, autrement dit, un territoire à arbitrer, à négocier. Il doit y avoir de la gouvernance forestière. Elle existe encore assez peu parce que le système forestier est assez mal connu des gens. En particulier, la station, la référence écologique de base, est assez mal connue. Parfois, on laisse le dernier mot au poète, mais moi, je vais laisser le dernier mot à La Rochefoucauld, qui nous disait « Il faut ménager notre bien. » Eh bien, essayons de ménager donc ce bien. Et ici, les flotteurs d'Oran-Létain. Voilà, je vous remercie.